Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 23. Au plus vaillant. Lorsque Quentin Durward rentra à Péronne, un conseil était en séance. L'issue des délibérations devait le toucher beaucoup plus qu'il n'aurait pu s'en douter. Tenu par de hauts personnages avec lesquels il semblait n'avoir aucun intérêt en commun, ce conseil eut néanmoins sur sa fortune l'influence la plus extraordinaire. Le roi Louis, après l'intermède de l'envoyé de la marque, avait saisi toutes les occasions d'entretenir le duc Charles dans les bonnes dispositions où cet incident l'avait mis. Il l'avait consulté, ou pour mieux dire, il avait reçu son avis sur le nombre et la qualité des troupes dont il se ferait suivre, en qualité d'allié du duc de Bourgogne, dans leur commune expédition. Il voyait clairement que le duc désirait avoir dans son camp un nombre restreint de Français de qualité, dont il comptait faire des otages plutôt que des auxiliaires. Malgré cela, et se conformant à l'avis de Crèvecœur, le roi donna son assentiment à toutes les conditions du duc, avec autant d'empressement que si l'idée de les proposer lui fût venue d'elle-même. En manière de compensation, Louis eut le plaisir de se venger du cardinal Labalu, dont les conseils l'avaient poussé à se montrer au duc de Bourgogne, dont les conseils l'avaient poussé à montrer au duc de Bourgogne cet excès de confiance. Tristan, en portant les ordres nécessaires pour la levée des troupes auxiliaires, avait été chargé en outre de conduire le cardinal au château de Loches et de l'enfermer dans une de ces cages de fer dont il était, dit-on, lui-même l'inventeur. Qu'il fasse l'expérience de sa propre invention, dit le roi. Il appartient à la Sainte Église, et par conséquent nous ne pouvons pas verser son sang. Mais pasque Dieu, son évêché, pour 10 bonnes années, aura une frontière imprenable pour compenser son peu d'étendue. Et voyez à ce que les troupes soient levées immédiatement. Peut-être en se montrant si empressé sur un point, Louis espérait-il esquiver l'autre condition, beaucoup plus déplaisante, qui avait scellé la réconciliation. Mais il se trompait sur le compte du duc de Bourgogne, car jamais homme ne fut plus obstiné dans ses résolutions que le prince Charles, et les stipulations auxquelles il tenait le plus étaient celles qu'il avait faites étant en colère, en vue d'une vengeance ou à propos d'une injure supposée. À peine Louis avait-il expédié les ordres nécessaires pour le rassemblement des troupes que son hôte le requit de donner publiquement son consentement au mariage du duc d'Orléans et d'Isabelle de Croix. Le roi consentit, non sans soupirer, puis il demanda que le duc d'Orléans lui-même fût préalablement consulté sur ce projet de mariage. On y a songé, dit le duc de Bourgogne. Crèvecœur en a parlé au duc d'Orléans, et, chose étrange, il se montre si peu sensible à l'honneur d'une alliance royale qu'il a accepté avec une véritable reconnaissance l'offre d'épouser la comtesse Isabelle de Croix. Il n'en est que plus ingrat et discourtois, reprit Louis. Mais il en sera, cousin, ce qu'il vous plaira, si vous avez le consentement des deux parties. N'ayez cure, répliqua le duc. En conséquence, quelques minutes après, le duc d'Orléans et la comtesse Isabelle de Croix comparurent, cette dernière sous la protection de la comtesse de Crèvecœur et de l'abbesse des Ursulines. Ce fut Charles de Bourgogne qui prit la parole. Louis, sans faire une seule objection, gardait un silence morose, car il se sentait amoindri dans son importance. Le duc déclara donc que le roi et lui, dans leur sagesse, avaient décidé un mariage destiné à cimenter à tout jamais l'alliance de la France et de la Bourgogne. Le duc d'Orléans eut beaucoup de peine à cacher une joie que la délicatesse ne lui permettait pas de laisser éclater en présence de Louis. Et il lui fallut toute la crainte que le roi lui inspirait depuis longtemps pour le contraindre à réprimander la manifestation de son contentement. Mon devoir, dit-il, est d'accepter le choix fait par mon souverain. Alors Charles se tourna vers la jeune comtesse et lui parla de ce qu'il avait décidé à son sujet, comme d'une chose qui n'admettait ni délai ni hésitation. Il ajouta en même temps qu'elle devait être trop heureuse de se voir si bien traitée, après la désobéissance dont elle s'était rendue coupable dans une occasion récente. Monseigneur, duc et souverain, dit Isabelle, appelant à elle tout son courage. J'observe les commandements de votre grâce et je m'y soumets. Assez, assez, s'écria le duc en l'interrompant. Le reste nous regarde. Votre Majesté, ajouta-t-il en s'adressant au roi Louis, a couru le sanglier ce matin. Que dites-vous d'une chasse au loup cet après-midi? La jeune comtesse vit que c'était le moment de montrer de la décision. Elle prit donc la parole, timidement, il est vrai, mais d'un ton assez élevé et assez net pour attirer l'attention du duc, malgré le désir qu'il avait de couper court pour des raisons à lui connues. Votre grâce, dit-elle, se méprend sur mes intentions. Ma soumission n'a rapport qu'aux terres et domaines donnés à mes ancêtres par ceux de votre grâce, et que je résigne à la maison de Bourgogne, si mon souverain croit que ma désobéissance m'a rendu indigne de les conserver. Ah! Par Saint-Georges! S'écria le duc en frappant du pied avec fureur. Cette folle sait-elle en présence de qui elle est et à qui elle parle? Monseigneur, reprit-elle sans se laisser déconcerter, je suis devant mon suzerain, et je l'espère devant un suzerain qui respecte la justice. Si vous me privez de mes terres, vous m'enlevez tout ce que je devais à la générosité de vos ancêtres, et vous brisez les seuls liens qui nous attachent l'un à l'autre. Mon corps, mon âme, ce n'est pas de vous que je les tiens. Mon dessein est de les consacrer à Dieu, dans le couvent des Ursulines, sous la conduite de cette sainte mère abbesse. On aurait de la peine à concevoir la rage et le désappointement de Charles. Cette sainte mère consentira-t-elle à vous recevoir sans apanage? Dit-il d'un ton de mépris. Si elle fait à son couvent un si grand tort, reprit la comtesse Isabelle, j'espère qu'il y a assez de charité parmi les nobles amis de ma maison pour venir en aide à l'orpheline des Croix. C'est faux, cria le duc, c'est un vil prétexte pour couvrir quelques secrètes et viles passions. Monseigneur d'Orléans, elle sera à vous, quand je devrais la traîner de mes propres mains à l'autel. La comtesse de Crèvecœur ne put se contraindre à garder plus longtemps le silence. Monseigneur, dit-elle, votre colère vous fait employer un langage absolument indigne. On ne dispose pas par la force de la main d'une fille noble. Et ce n'est pas le rôle d'un prince chrétien, ajouta l'abbesse, de contrarier les désirs d'une âme pieuse qui, meurtrie par les soucis et les persécutions de ce monde, désire se fiancer à Dieu. Mon cousin d'Orléans ne peut pas non plus, fit observer Dunois, accepter avec honneur la main d'une dame qui a si publiquement fait connaître les motifs de son refus. Si l'on me donnait un peu de temps, dit le duc d'Orléans, sur l'esprit facile duquel la beauté d'Isabelle avait fait beaucoup d'impression, et si l'on me permettait de présenter mes vœux sous un jour plus favorable, Monseigneur, répliqua Isabelle, qui avait repris son assurance, en se voyant soutenue par tous ceux qui l'entouraient. Ce serait inutile. Je suis décidée à décliner cette alliance, quoiqu'elle soit de beaucoup au-dessus de mes mérites. Et moi, cria le duc, je n'ai pas le temps d'attendre que ses caprices changent avec le prochain changement de lune. Monseigneur d'Orléans, elle apprendra sur l'heure que l'obéissance est ici affaire de nécessité. Pas à mon profit, sire, répondit le prince, qui ne pouvait pas honorablement se prévaloir de l'entêtement du duc. C'est assez pour un fils de France d'avoir été ouvertement et positivement refusé. Il lui est interdit de faire un pas de plus. Le duc lança un regard furieux à d'Orléans, un autre à Louis. Lisant sur la physionomie du roi, en dépit de ses efforts pour dissimuler ses sentiments, une expression de secret triomphe, il s'abandonna à la violence. Écrivez, cria-t-il au secrétaire, notre sentence de forfaiture et d'emprisonnement contre cette petite fille insolente et désobéissante. Elle ira au pénitencier tenir compagnie à celle que leur genre de vie a rendue ses rivales en effronterie. Il y eut un murmure général. Monseigneur le duc, dit le comte de Crèvecœur, qui prit la parole pour les autres. Ceci demande réflexion. Nous, Vos fidèles vassaux, nous ne pouvons souffrir qu'un tel outrage soit fait à la noblesse et à la chevalerie de Bourgogne. Si la comtesse a eu des torts, qu'elle soit punie, mais d'une manière conforme à son rang et au nôtre, nous qui sommes unis à sa maison par le sang et les alliances. Le duc fit une pause d'un instant et regarda son conseiller en plein visage, avec le regard fixe d'un taureau qui, écarté par le bouvier de la route qu'il se proposait de suivre, se demande s'il va obéir au conducteur ou se jeter sur lui et le lancer en l'air. La prudence toutefois l'emporta sur la fureur. Il vit que le sentiment du comte était partagé par la majorité du conseil. Il craignait que Louis ne tirât quelque avantage de la moindre dissension entre ses vassaux. Peut-être aussi, car il était plus violent que méchant, eut-il honte de ce qu'il venait de dire. Crève-cœur, reprit-il, vous avez raison. J'ai parlé trop vite. Son sort sera ordonné selon les règles de la chevalerie. C'est sa fuite à Liège qui a été le signal de l'assassinat de l'évêque. Celui qui vengera ce crime et nous apportera la tête du sanglier des Ardennes pourra venir nous demander la main de la comtesse. Si elle refuse, il aura du moins ses fiefs, et nous laisserons à sa générosité le soin de lui fournir de quoi entrer dans un couvent. Mais, dit la comtesse, songez que je suis la fille du comte Reynold, du vieux, du vaillant et fidèle serviteur de votre grâce. Voulez-vous donc faire de moi le prix du meilleur coup d'épée? Votre aïeul, répondit le duc, a été le prix d'un tournoi. On combattra pour vous dans une vraie mêlée. Pour l'amour du comte Reynold, le vainqueur devra être un gentilhomme de naissance irréprochable et de mœurs sans tache. Mais pourvu qu'il soit tel, fût-il le gentilhomme le plus pauvre qui ait jamais ceint le baudrier, je lui ferai du moins l'offre de votre main. Je le jure par Saint-Georges, par ma couronne ducale et par l'ordre que je porte. Ah, messire, ajouta-t-il en se tournant vers les nobles qui l'écoutaient, ceci au moins, je crois, est conforme aux règles de la chevalerie.